Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé, on a eu un peu de retard, un peu plus de retard quand même. Il y a eu comme 14 minutes de retard suite à quelques désagréments. Il y a eu un petit souci de synchronisation, de clé au niveau du live et au niveau de Streamlabs OBS. En tout cas, encore une fois, désolé. Merci d'être tous présents ce soir pour ce deuxième épisode de Chromebook on Live. Donc, la première émission vraiment francophone en direct sur YouTube autour des sujets Chromebook et Chrome OS. Encore une fois, je vous remercie pour votre support, votre encouragement suite au premier épisode. J'ai eu vraiment beaucoup de retours positifs quand on était évidemment en live, mais également au travers de messages, de commentaires sur chromebooklive.com et aussi en message privé. Encore une fois, merci pour vos encouragements et pour votre présence ce soir. Donc, pour petit rappel, donc je suis Fred de Chromebook Live et aujourd'hui, on est accompagné non pas avec l'international ou bien le national, mais plutôt le régional cette fois-ci. Romain, comment vas-tu ?
Salut, bonsoir tout le monde. Sinon, moi ça va super et toi tu vas bien, Fred ?
Bah écoute, j'aimerais te dire que je suis un tout petit peu stressé suite à ce qui vient de se passer parce que on maîtrise pas encore, mais on va commencer à maîtriser. J'ai trouvé le souci, donc en théorie on le reproduira pas, et comme j'aime bien dire, c'est en se cassant un peu les dents qu'on arrive à avancer et à continuer. Comment s'est passé ton mois, Romain, suite au premier épisode
Alors le mois, franchement, c'est passé super vite. Alors je sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'on a fait l'épisode il y a 2-3 jours, ça s'est enchaîné d'une vitesse. Donc là, je suis d'attaque pour le deuxième épisode. En tout cas, et merci de m'avoir invité de nouveau, ça me fait plaisir.
Écoute, avec plaisir. J'ai eu un peu cette même sensation, sauf que c'est vrai que j'aurais aimé même pouvoir le faire. J'étais assez pressé en fait de réaliser ce deuxième épisode parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'actualités. Vous allez voir des actualités qui vont faire rêver, on va dire, les Chromebooks, ou en tout cas le marché du Chromebook. Vous allez voir ça dans quelques minutes. Donc pour rappel, Chromebook Live est une émission mensuel. Alors il n'y a pas de date fixe. En général, on va le faire en fin de mois et ça va dépendre effectivement de nos disponibilités, de ma disponibilité et de l'invité, en l'occurrence Romain, pour cette occasion. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur chromebooklive.com ou bien sur les réseaux sociaux. Vous connaissez Instagram, Twitter et Facebook. J'aimerais remercier aussi deux personnes. Déjà Romain, Simon, pour ta participation.
Merci.
Tu avais fait un don la dernière fois, tout comme Viet Vodao lors du premier épisode. Alors on s'y attendait pas et ça fait toujours plaisir. C'est toujours bon parce que ça permet de faire plein de choses. Dès qu'on commence à avoir un peu d'argent, on peut investir dans des projets et Chromebook on Live en est un. Donc voilà, c'est toujours sympa de remercier finalement le travail qu'on peut produire d'ordre général. Et merci encore une fois Michou d'être le modérateur sur cette émission sur YouTube. Donc merci encore une fois pour toi. Si d'autres aimeraient pouvoir être modérateurs, alors je suis pas du tout fermé à l'idée, plus on a de modérateurs, mieux c'est. Si effectivement la communauté, plus on est fou, voilà. Si la communauté grandit, pour le moment on a plutôt une petite communauté. Je pense pas que ce soit encore intéressant, mais en tout cas voilà, je fais passer le message. Et dernière chose, Chromebook on Live est désormais disponible sur toutes les grandes plateformes de podcast. On parle de Spotify, on parle de Apple Podcast, on parle de Google Podcast et on parle aussi d'autres plateformes un peu plus exotiques comme Pocket Cast ou autres. Et je sais pas. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site. J'ai déjà listé en fait l'ensemble des plateformes sur lesquelles le Chromebook Live tourne en podcast. Le chat, écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Encore une fois, désolé de ce désagrément. Je suis un peu
triste, ça va aller. J'ai fait des incantations moi pendant que tu essayais de régler le souci. Regarde, ça a marché, donc c'est
gentil. tu m'as fourni une clé de stream, c'est génial. C'est génial. En tout cas, par rapport au premier épisode qui était donc une sorte de prototype, évidemment on va changer un peu la manière d'avancer. On va plus interagir avec vous. L'idée c'est bien évidemment qu'à chaque fin d'actualité, on vous laisse la parole ou en tout cas, on va lire un peu le chat et
Exact.
répondre à vos questions Romac, mais vraiment relatif, je dirais, à l'actualité en question pour pas partir non plus dans tous les sens. Donc, merci, merci voilà, de tenter de suivre un peu ces règles-là. Et de toute façon, y a Michou qui va être là pour tendre le bâton et vous taper si nécessaire. Donc, comme je vous l'ai teasé en introduction, il y a quand même pas mal de news très intéressantes. Et on va parler tout d'abord du Romain et tout le monde, du
Oui.
marché du Chromebook, parce qu'on a des données hein,
C'est
très,
dingue.
très intéressantes, en tout cas moi qui m'ont, on va dire, qui m'ont charmé, hein, des données de, on va dire, de deux instituts ou de deux cabinets, enfin en tout cas de deux entreprises spécialisées, on va dire, dans la veille technologique, dans la veille des marchés autour des ordinateurs. Une première qui nous vient, un rapport qui nous vient en fait de Canalys, qui fait des comparaisons d'un trimestre de 2019 au trimestre de 2020. Et pour le dernier trimestre de 2020, à savoir ce qu'ils appellent en anglais, donc c'est un quarter, donc c'est trimestre en français, pour le dernier trimestre, on a eu une progression de plus de 287% des
C'est énorme.
expéditions de Chromebook. Alors, comme tu dis, c'est énorme. Alors après, j'aime bien dire que tout est relatif, hein. C'est facile aussi, tu sais, de vendre un Chromebook et l'année prochaine, t'en vends 1000, et donc tu as une progression qui est, tu sais,
C'est vrai.
qui est fulgurante. Mais
Tu
en
peux
tout
faire
cas,
parler les chiffres.
voilà, tu peux faire parler les chiffres comme tu le dis. Et là, on est en train
Ouais,
de les
c'est
faire
ça.
parler dans un sens, dans le sens positif, on va dire, des Chromebooks. Mais en tout cas, on a effectivement, sur 2020, près de 30 millions de Chromebooks qui ont été expédiés. On peut regarder juste à côté, hein, on a un graphique sur la partie tablette où on en a 160 millions. Donc encore une fois, tout est relatif. Hein, le marché de la tablette est quand même bien plus poussé que celui, on va dire, du Chromebook, même si celui du Chromebook fait partie, on va dire, du marché du notebook ou plus largement des ordinateurs portables. Mais le dernier quarter, c'est quand même, pour un trimestre, on est sur un tiers du volume qui a été réalisé, hein, c'est 11,2 millions de Chromebooks qui ont été expédiés sur le dernier trimestre, alors qu'il y en a 30 millions sur l'année entière. Donc on est quand même sur des chiffres assez intéressants qui montrent toujours cette progression. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Romain. Est-ce que tu as un avis à nous partager un peu sur le sujet?
Ouais, bah moi je pense que bah déjà l'augmentation est assez dingue de ce que j'ai pu voir. En plus j'avais lu l'article, j'étais pas vraiment au courant de tout ça. Et je pense que c'est lié, bah comme on peut se l'imaginer, c'est lié au Covid tout d'abord où nos modes de vie ont complètement changé. Maintenant on est passé au full digital, on fait la plupart des choses, on les fait à distance maintenant. Même au travail, on fait du télétravail ou autre. Et donc en fait je pense que le Chromebook a pu tirer un peu son épingle du jeu par rapport peut-être à d'autres plateformes. Je sais pas après l'évolution des autres plateformes comme le Mac, le PC ou autre, sous Windows, donc je pourrais pas te dire. Mais je
On
pense
y
que le
reviendra
fait.
juste après, ouais.
Ouais. Et du coup, je pense que le Chromebook tire son épingle du jeu sur le fait que déjà c'est vachement mis en avant sur tout ce qui est éducation en Amérique ou autre, et aussi c'est super simple pour une entreprise ou par exemple une école de gérer une flotte de Chromebook. Ça demande pas beaucoup de maintenance, tout peut être fait facilement. Donc je pense que grâce à ça, et je pense que c'est dû à les petites choses qui ont fait qu'on est sur une évolution aussi importante sur le marché. En tout cas, c'est ce que je pense moi de mon côté.
Bah écoute, enfin
En résumé.
c'est assez cohérent hein, par rapport à ce qui a été partagé par Canalys et ce que je suis en train de. Je regarde en même temps le chat, hein, du coup, comme je vous l'ai dit, on interagit par rapport un peu aux actualités. Effectivement, hein, Dominique C qui nous dit télétravail, pub TV et prix abordable. Alors, très
C'est ça.
clairement, on est là-dessus. Pub TV, oui. Mais globalement, ce que nous dit Canalys, en tout cas, c'est qu'il y a eu un vrai. Y a eu là, évidemment la crise sanitaire qui a forcé à ce qu'on soit tous plus ou moins en télétravail, mais surtout il y a eu beaucoup de pays qui ont dû également se digitaliser et pousser l'enseignement à distance, hein, les élèves à la maison, bah, tout comme les professeurs bien évidemment, et donc d'utiliser des solutions viables, des solutions de visioconférence comme Google Meet ou Zoom, même si Zoom, bon, c'est venu un peu après de manière sécurisée, parce que ça l'était pas au départ,
Au
donc il y a eu une
début.
stratégie quand même bah assez maligne, hein, mais bon, ça on y reviendra après un autre moment. Et donc, beaucoup d'États et beaucoup d'écoles ont choisi les Chromebooks, comme on l'a cité. Un prix abordable, donc ce qu'on appelle enfin un TCO qui est vraiment intéressant, donc un coût total de possession qui est vraiment, vraiment intéressant, et surtout apparemment vraiment la gestion de la flotte. Moi, je peux vous assurer que je ne suis pas du tout administrateur réseau, spécialiste en déploiement d'ordinateurs portables. Et pourtant, durant Covid, j'ai onboardé un collègue et ça a été très simple. Hein. La manip, elle est très simple, ça prend 3 minutes. On envoie le Chromebook et puis on fait quelques petites manipulations sur la Google Admin Console pour lui refaire descendre les droits et gérer au mieux la sécurité. Donc vraiment, ça, c'est très très simple. Et pour moi aujourd'hui, alors il reste un. Hein, une autre étape, et ça pour ceux qui suivent un peu le domaine professionnel, on arrive bientôt sur du zero touch enrollment, donc ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de faire cette manipulation dont je vous ai parlé. Hein. On expédie directement le Chromebook à l'entreprise ou à l'étudiant, à l'utilisateur final, et il peut directement se connecter au travers de son adresse email et retrouver son environnement de travail. Donc globalement, c'est ça, Romain, et effectivement, Dominique, c'est ça. Baptiste B, le bouche à oreille a un effet boule de neige aussi. Mais très clairement, à partir du moment où effectivement on a un projet qui fonctionne bien, qu'on a une école qui est plutôt satisfaite par le Chromebook ou une organisation plus largement, bah dans tous les cas, en général, après, c'est du bouche à oreille, en espérant
C'est
que ce ne soit
ça.
pas du téléphone arabe et qu'il y a de la déformation. Mais en tout cas, ouais, en général, il y a de ça,
Bah,
très
quand tu
clairement.
parles bien d'un produit, en tout cas tu le vends bien ou autre, forcément ça va tomber dans les oreilles de quelqu'un et ça va s'enchaîner, donc c'est parfait. Après, je tiens à remercier Summer Wolf qui a fait un don dans le chat, je viens de voir, donc qui t'a dit continue comme ça, Fred. Je sais pas si t'avais vu.
Eh bien, écoute, merci de me le dire. Je suis vraiment désolé parce que je suis un peu perdu avec cette
Mais merci à lui.
initialisation de live. Mais en tout cas, merci à Summer Wolf pour les 10 euros et pour le soutien. Mais également Romain Simon pour les 5 euros.
C'est
Tous les
ouf.
mois, non, Romain, quand même. Calmons-nous. Hein. Mais en tout cas, c'est super gentil de votre part. On va basculer maintenant sur la deuxième news hein, qui est toujours relative. Enfin, on parle de chiffres, hein, de données du marché, et qui est assez intéressant parce que j'avais rédigé la news concernant Canalys et quelques jours plus tard, je vois quelque chose, j'entends dire que les Chromebooks ont dépassé les ventes de Mac en 2020. Ok, très bien. Bon, bah, on regarde précisément un peu. Enfin, d'abord, de prime abord, j'ai regardé un peu le graphique. Qu'est-ce qu'on constate? Donc là, c'est les parts de marché dans le monde des différents systèmes d'exploitation. Donc on a effectivement la courbe bleue qui est celle représentant Windows, la courbe violette qui représente Chrome OS et la courbe verte qui correspond à celle de macOS. Ce qu'on constate, et en dessous, on a en fait un tableau, hein, des chiffres avec des précisions sur les parts de marché, et donc on va jouer un peu avec les deux, avec le graphique et le tableau, c'est qu'on a quand même Windows qui passe en début d'année 2020 de 87,5% de parts de marché à 75,7% de parts de marché en Q4, ce qui est quand même pas négligeable, hein. C'est une belle baisse, mais évidemment, Windows est enfin Microsoft d'ordre général est un mastodonte, donc il a une forte implantation, une forte pénétration sur le marché, hein, grâce à toutes ses applications, enfin toutes ses solutions, historiquement parlant. On voit par contre que macOS est en train de. On dirait qu'il se stabilise, qu'il monte un peu, puis
C'est
qu'il
ça,
redescend. C'est-à-dire qu'on a eu une progression à 5,8%. Enfin, on était à 5,8%. Ils ont réussi à Q3, donc au troisième trimestre, à atteindre les 8,4% et redescendre, en fait, au dernier trimestre à 7,7%. Et juste au-dessus, on a l'OVNI,
ouais.
on
Sorti nulle
a,
part.
qui est sorti de nulle part, qui était en dessous des deux autres en début d'année avec 5,3% et qui arrive avec un 14,4%. En fin d'année, quasiment le double en fait de part de marché de macOS, ce qui est assez impressionnant quand on prend un peu de recul et qu'on se dit, la Chrome OS quand même, c'est un système d'exploitation qui est sorti il y a 10 ans. Il y a 10 ans, aux alentours de 2010-2011, les Chromebooks, c'était pas vraiment connu. Et là, en 10 ans, ils arrivent à être le deuxième système d'exploitation le plus vendu au monde. Donc je trouve la donnée impressionnante, encore une fois, c'est-à-dire que Google a réussi à faire très rapidement son travail pour positionner Chrome OS comme l'un des plus gros systèmes d'exploitation dans le monde, Romain.
Carrément. Bah, carrément. En plus, il est très bas. Hein. Quand tu compares aux deux autres, il est très récent, ce système d'exploitation. En 10 ans, ils ont quand même fait. Ils font un peu ce qu'ils ont fait avec Google Chrome en tant que navigateur. Ils sont arrivés sur les plates-bandes de Internet Explorer.
Explorer.
Personne n'y croyait. Et ils sont arrivés et vlam, quoi. ils ont tout déballé, quoi.
Ouais, c'est le coup du lapin.
C'est ça, le coup de la corde à linge.
C'est le coup du lapin. Je ne sais pas du coup ce que vous en pensez sur le chat. On va regarder un peu.
Ouais, un
Le
petit
Chromebook
peu.
devient plus premium et à des Intel i5, ça change tout, je pense. Peut-être, il y a effectivement le fait que la gamme s'est développée, qu'on a de plus en plus de modèles,
C'est ça.
qu'on
On a
soit
du
plus.
Ryzen aussi maintenant.
On a du
On a pu.
Ryzen, donc c'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement sur de l'Intel. Les entreprises peuvent avoir le choix, et ce qui est bien, c'est que ça va amener de la concurrence à Intel. Comme tu dis, Intel 5, i5, c'est intéressant parce que, bon, là, on parle plutôt d'Intel Core, mais le Chromebook a souvent été comparé comme des ordinateurs un peu, comme j'aime bien le dire, Lego, ou en tout cas,
Low cost.
low cost, bas de gamme avec de
Ouais.
l'Intel Celeron, et effectivement la donne change complètement. Et Google a réussi à s'adapter aux besoins des entreprises, aux besoins finalement des écoles. Manque plus pour moi que de développer surtout cette partie grand public. Hein, je pense qu'elle a participé à cette augmentation de part de marché parce qu'on ne fait pas de distinction en fait par secteur. Mais toutefois, moi j'ai l'impression qu'encore une fois, il y a très peu de communication, très peu de bruit autour des Chromebooks. Je dirais qu'on essaie d'y participer un peu au travers de ce genre d'émission. Mais c'est pour le coup, c'est bien dommage de la part de Google. Et le Doom, Microsoft essaie de copier Chrome OS, tout à fait. On en avait
C'est
parlé la
vrai.
dernière fois, lors du premier
Exact.
épisode, avec Microsoft. Microsoft Windows 10X, si je ne dis pas de bêtises. Je voulais revenir sur un truc, parce que je ne vous ai pas partagé cette information aussi. Là, par contre, c'est sur les parts de marché des constructeurs. Des constructeurs, on parle, je vous ai souvent parlé d'Acer, j'ai trop souvent lancé Acer en disant qu'effectivement,
Un
c'est le
Acer fanboy, on le sait
leader.
tous.
Attends, on va faire un peu de publicité. Non, c'est pas un placement pour un produit. C'est le Spin 713, on va peut-être en parler après, mais un très bon produit. J'en ai fait une vidéo du coup sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir le test. Mais en tout cas, j'ai souvent dit que Acer dominait le marché. Je pense qu'effectivement en France, il le domine. C'est un acteur qui est très investi sur le Chromebook au travers de sa gamme hein, de Chromebook. Il y en a vraiment beaucoup plusieurs modèles à destination de l'entreprise, du grand public et de l'école. Et finalement, quand on regarde un peu les stats mondiales, on se rend compte bah, que c'est pas forcément Acer qui domine. On a les trois constructeurs historiques ou en tout cas dominants dans le monde de l'entreprise. Attendez, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez un peu mieux parce que je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Voilà, là, c'est un peu mieux. On a HP qui domine le marché, suivi de Lenovo et de Dell. Donc moi, c'est ce que j'appelle un peu les constructeurs de confiance pour les entreprises. Hein. C'est vraiment les gros mastodontes. Ensuite, on a Acer qui est pas très loin de Dell. Hein. Et pourtant, c'est assez dommage de voir ça parce que Dell et Lenovo, c'est pas forcément ceux qui investissent le plus
De
sur le
plus,
marché.
ouais.
Par contre, sont capables, je pense, d'avoir du stock et de proposer des choses très intéressantes pour les organisations d'un point de vue financier. Donc Acer se retrouve un peu derrière, c'est assez dommage. Hein. Et ensuite, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'on voit Samsung apparaître. C'est-à-dire qu'en Q3, on avait
Ouais.
Asus qui était devant et Samsung qui vient prendre la place, Robin. C'est assez, c'est, je trouve ça
C'est dingue, je trouve.
assez fou, sachant que bah, Samsung est peu développé en France, enfin surtout, et n'existe pas en
En
France sur
Europe,
la
quoi.
partie en Europe plus largement, mais ça veut dire qu'ils font énormément d'argent aux États-Unis, très probablement au Canada et aux autres pays qui ont la possibilité et la chance de l'avoir. Mais comme je vous l'ai dit lors du premier épisode, mon petit doigt, peut-être mon gros doigt me dit
C'est vrai que
que
tu le dis
Samsung
souvent.
va peut-être arriver. Ouais, mais écoute, moi je reste positif sur ça. Moi, je pense qu'ils vont venir.
Ouais, ce que je trouve étonnant quand même dans la news, c'est qu'on voit même pas apparaître Asus, alors que moi je pensais que c'était quand même un mastodon avec Acer sur les Chromebooks, et on les voit même pas apparaître. Donc j'ai quand même halluciné quand j'ai lu la news de pas les voir. Alors ah, peut-être parce que c'est le marché français, il est peut-être plus présent Asus, en tout cas la marque Asus sur le marché français, parce qu'elle a une cote un peu de popularité en France Asus. Mais du coup j'étais assez étonné de même pas, je suppose qu'elle est dans le truc autre, mais j'étais assez étonné de pas voir la marque.
Je pense qu'ils doivent être également, comme tu dis, sur la partie haute et ils génèrent pas assez de chiffre d'affaires pour pouvoir se distinguer. Donc dans les autres, je pense que tu dois avoir Asus, tu dois avoir peut-être CTL, donc qui est un constructeur américain qu'on ne voit pas en France. Hein. Moi j'avais testé un de leurs Chromebooks, mais ils sont très orientés éducation et ils font aussi de la Chromebox, hein, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, ouais, tu as raison. Hein. Le MacBook Killer qu'on a chez Asus et que toi tu as
Oui.
à la maison. Romain, bah, malheureusement, fait plus partie de ces stats, donc on
C'est
verra
pour ça que
si.
je suis très.
Ouais, je sais, je sais, je sais. Non, non, mais il faut pas que tu le montres, il faut pas qu'on en parle.
Il faut que je le prenne, il est là-bas. Non, je vais pas le montrer, bon, c'est le C434, tout le monde le connaît, donc.
Bah écoute, transition vraiment bien faite, puisqu'en fait maintenant on va basculer un peu sur la partie hardware et des nouveautés. Alors sur la partie hardware, il y a eu quelques leaks, notamment auprès des, au sein des, ouais, sur les sites, on va dire des revendeurs, concernant un nouveau modèle, pardon, de Chromebook détachable. Tout récemment, je vous avais fait le test de la tablette, ouais, aussi de la tablette Lenovo Duet IdeaPad Chromebook. À chaque fois, j'ai peur de me planter sur l'ordre en fait
Compliqué, ouais.
de chaque mot, qui est donc une tablette détachable 3 en 1, comme j'aime bien l'appeler. En fait, il y a le clavier, il y a la tablette en elle-même, et ensuite tu as un support qui permet en fait de basculer, enfin de mettre la tablette de poser la tablette comme bon vous semble. Et Asus a l'air de vouloir un peu s'opposer à cette domination sur la partie détachable en poussant un Asus Chromebook Flip CM3000 qui ressemble fortement, en fait, je trouve,
Ah oui.
Romain, à la Lenovo IdeaPad Duet Chromebook.
On dirait son petit frère, franchement, il se ressemble énormément. Même au niveau des specs, hein, quand on t'en parlera, c'est dingue.
Bah, c'est clair, au niveau des specs, on a, si je ne m'abuse pas, on est sur du MediaTek toujours, bah,
Ouais.
comme chez Lenovo. On est sur 4 Go de RAM avec 64 Go d'espace de stockage. Là où il me semble, si je dis pas de bêtises, elle se distingue, pardon, par l'intégration d'un stylet, pardon, USI. Donc OK, qui respecte les standards du moment au niveau des écrans tactiles, hein, et de la communication en fait entre le stylet et l'écran. Et on a ce fameux support qui vous permet de poser la tablette soit en mode portrait, soit en mode paysage, qui peut avoir effectivement peut-être des usages intéressants selon ce que vous faites. Donc regarder un
Ouais.
film ou bien faire une communication en Google Meet. Pourquoi pas coder, hein, si vous avez un ordinateur, enfin vous le mettez un peu à la verticale, c'est toujours sympa de coder et de voir les lignes de code de cette manière-là. Donc voilà pour cette tablette. On a un prix qui avait été
Ouais.
affiché chez un des revendeurs autour des 449 euros, donc 450 euros. Là où, si je ne m'abuse, la Lenovo IdeaPad Duet Chromebook ou Duet, bon, bref, peu importe, est autour des 300-350 euros. Donc
C'est
est-ce
ça.
que, Romain, le stylet USI plus ce support magnétique qui est un peu modulable, est-ce que ça justifie 100 euros?
Bah c'est franchement c'est ce que j'allais te poser comme question, je l'avais même noté, je me demandais qu'est-ce qui justifie la différence de prix, parce qu'on est sur les mêmes caractéristiques quasiment, la même taille d'écran, par le stylet, sinon on est sur la même chose et il y a 100 euros de différence, donc moi à choisir je partirais plutôt sur le Lenovo si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît ce principe-là,
Et
ce
pourquoi
concept-là.
la Lenovo au niveau du prix du coup?
Bah du prix, parce qu'ils font la même chose, ils ont la même. J'ai regardé, hein, je les ai comparés avant on est sur quasi la même chose. Et donc, il y a carrément 100 euros de différence, ce que je trouve assez énorme. Donc, je sais pas ce qui justifie cette différence de prix.
Bah écoute, c'est ouais, bon, on va dire que c'est le stylet
Peut-être le tissu à
USI,
l'arrière.
il y a le tissu à l'arrière qui est peut-être un tissu de
De
luxe.
meilleure qualité. Ouais,
C'est
c'est ça.
ça. En tout cas, au niveau de la date que j'avais moi repérée, hein, c'était 21 et 22 juillet 2021, j'y crois moi parce que je crois, si je vous dis pas de bêtises, la semaine dernière en naviguant un peu sur des sites, je suis tombé sur une date autour de mars 2021. Donc il se pourrait que la tablette sorte le mois prochain. Donc en tout cas, voilà, on vous tiendra au courant sur Chromebook Live ou bien même sur Chromebook Online. Ah bah oui, maintenant on a l'émission qui nous permet de nous exprimer un peu sur tous ces sujets. Et dernière chose, et là c'est une petite anecdote, il y a eu un des, pas auditeur, mais en tout cas quelqu'un qui me suit sur Twitter, si je ne m'abuse, qui m'avait dit qu'il avait acheté 4 Lenovo IdeaPad Duet
Sérieux?
Chromebook pour son foyer, ouais. Donc j'imagine,
C'est énorme.
tu sais, ils sont 4 à la maison, chacun a sa petite tablette et fait ce qu'il veut avec elle. Mais en tout cas, il est tombé. Enfin voilà, je pense qu'il y a le côté prix, il y a le côté format qui l'a vraiment plu. Et c'est assez marrant d'avoir ce genre de feedback et d'anecdotes où là, tu achètes quand même 4 Chromebooks. C'est pas non plus donné. Hein. Au final,
C'est vrai.
ça t'arrive à plus de 2000 euros. Mais ouais, 2000 euros, ce qui est l'équivalent d'un gros Chromebook premium qu'on peut trouver chez Dell ou dans le monde de l'entreprise. Alors, next news. On continue à
On
rester sur. Alors, attendez, on va peut-être revenir
va
sur le
peut-être
chat,
lire le
effectivement.
chat quand même, non? Un petit
Bien
peu.
vu, bien vu, bien vu, bien vu. Alors, moi, j'ai un décalage au niveau du chat. J'ai pas le chat en temps réel, j'ai l'impression. Donc, alors, attendez, je vais juste jeter un petit œil. Qu'est-ce que vous me dites? Ah non, en fait, le chat, je l'ai en temps réel. Par contre, la vidéo a l'air d'être décalée. MediaTek à
Allez,
chaque fois sur les versions tabs, ce que dit Summerwolf, tout à fait, tout à fait.
tiens, il y a une question de Baptiste, vu que toi tu as testé le produit. Le Lenovo, c'est du 16 dixième au niveau de l'écran, tu sais me dire,
Et
ben, tu
ben,
sais répondre ou
on
pas?
m'a fait la remarque, et effectivement, ce n'est pas du 16 neuvième. C'est un autre type de format. Je ne sais pas si tu peux regarder en parallèle, toi, Romain, sur
J'étais en
Internet,
train de
juste pour
regarder,
vérifier, parce que
mais.
je vais juste répondre à la remarque. Attends, à la remarque, à la remarque. Oui, par rapport au MediaTek, ouais, c'est assez dommage qu'on ait que du MediaTek sur ce genre de tablette parce qu'on est quand même sur des beaux produits et on aimerait pouvoir faire un peu plus. Moi, j'imagine bien avoir ce genre de produit pour faire un peu du développement ou en tout cas faire du multitâche, mais de manière vraiment optimale. Et je me souviens qu'il y a quand même eu la Pixel Slate de Google, hein, que j'ai testé aussi sur la chaîne, qui elle, par contre, était proposée en Intel Core. Donc, finalement, bon, il y a eu quelque chose qui avait été réalisé, mais aujourd'hui, les constructeurs n'ont pas forcément suivi avec ce genre de processeur. Je ne sais pas si, dis-moi si Romain, tu as trouvé la news.
J'ai pas l'info là, mais je vais peut-être la trouver. T'inquiète pas, je suis en train de regarder.
À vérifier en
Après,
tout cas, ouais.
ce que Dominique dit, c'est pas bête en soi. Il dit 4 Chromebooks pour le prix d'un iPad. En soi, tu fais plaisir à toute la maison pour le prix d'un seul iPad. Donc, c'est
Ça,
ça aussi l'avantage
c'est.
de Chromebook, hein.
C'est les arguments qu'il faut toujours mettre en avant.
Ouais.
Il y a évidemment le prix, et même quand j'aime bien parler de ça dans l'éducation, parce que l'iPad en France a une vraie présence dans le monde éducatif, mais on se rend compte quand même, on est avec un appareil qui coûte déjà de base, qui est assez cher, et en plus, vous n'avez pas le clavier qui est avec, donc il faut rajouter un peu d'argent de son portefeuille pour avoir le clavier, et donc vous arrivez avec un prix qui est assez grand. Et moi, je trouve ça pertinent d'avoir pour des enfants un ordinateur portable qui est convertible. Donc comme ça, il peut faire du tactile et à côté, il peut produire du contenu, comme j'aime bien dire aussi en collaboratif avec avec les autres élèves. Je pense que c'est toujours bien du plus jeune âge de faire ce genre de travaux, un peu des sortes de projets où on collabore sur des slides. Moi, malheureusement, j'ai pas vécu ça, et étant jeune, j'ai pas eu cette occasion-là, mais je pense que c'est important. L'informatique arrive maintenant très tôt, pardon, dans les écoles, notamment même les langages de programmation, le développement informatique, et c'est assez, moi je trouve ça assez passionnant.
On a connu que la feuille de papier à l'époque, hein, on pouvait pas faire autrement.
C'est ça malheureusement. Alors
J'ai pas l'info en direct, donc désolé si je la retrouve entre-temps, je la donnerai, mais je l'ai pas trouvée de mon côté.
Bah écoute, on essaiera de chercher,
Ouais.
ou n'hésitez pas à regarder aussi sur internet, hein, peut-être directement sur le site de Lenovo, vous aurez, je pense, l'information la plus claire et la plus juste à ce sujet.
Possible.
On va rebasculer sur les news et rester toujours sur la partie hardware. On a Lenovo qui a présenté une vidéo, hein, je vais vous la diffuser, du futur Lenovo. Non, je crois qu'il est même déjà disponible, excusez-moi, je vous dis des bêtises. Le Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook Enterprise. Donc, encore une fois, un nom à rallonge. Mais
Carrément.
on est sur un Chromebook. Alors désolé, j'ai quelques petits soucis de diffusion. Ah, je crois que je ne vais pas pouvoir vous diffuser parce que j'ai un problème de connectique assez bizarre. Enfin, attendez, on va voir ce que ça a donné. Est-ce que ça
Bon, si ça
continue?
explose, c'est normal.
Ah bah ouais, j'ai un petit souci, donc ça va pas forcément fonctionner, mais n'hésitez pas à aller voir sur le site, je vais juste vous le dérouler comme ça. On a un nouveau Chromebook de chez Lenovo qui est très design, qui est très light, avec encore une fois, on va être sur du borderless. Je vais essayer de juste vous mettre ce lien peut-être, ça va être intéressant. C'est plus intéressant. Voilà. On est sur un écran qui est quasiment borderless, qui propose, si je ne dis pas de bêtises, deux ports USB type C, deux ports USB type A, un port HDMI, un lecteur d'empreintes digitales, et un cache caméra. On est vraiment sur la partie, sur un Chromebook à destination de l'entreprise. Mais là aussi, je pense qu'au niveau des prix, si je ne vous dis pas de bêtises, on va aller directement sur le site de Lenovo. Ah, de toute façon, je l'avais noté dans l'article, mais comme ça, vous allez pouvoir voir la chose. On est à partir de 719 euros. Mais
Ah,
là,
les prix sont assez salés, hein.
c'est ça. Mais on est sur de l'AMD pour info. On a pas d'Intel sur ce modèle-là. Donc, encore une fois, ça rejoint ce qu'on se disait, Romain, tout à l'heure, hein, sur la concurrence un peu Intel-AMD, ce qu'on s'était dit lors du
Ouais.
premier épisode. Mais là, on est à 719 avec de l'AMD Athlon Gold. Personnellement, j'ai jamais testé ça. Ça me dit rien, mais moi, je le rapproche souvent. Je pense que ça doit être la gamme proche de l'Intel Celeron. Par contre, on a la partie AMD Ryzen à 899 euros. Et vous avez la possibilité d'avoir, je crois, un écran 4K, mais qui reste en option. Donc, si je configure et si je vais un peu plus loin, je pense qu'on va avoir un prix au-dessus des 899
Je
euros
crois qu'il n'est
au
pas
final.
disponible, l'écran 4K n'est pas disponible en France de ce que j'avais regardé
Ah!
sur le site. Donc en fait,
D'accord.
on est limité à ces deux configs. Ou peut-être je me trompe, mais j'avais regardé un petit peu et j'ai pas vu la config 4K. Donc,
Non mais écoute, tu n'as pas tort, j'ai pas. Ouais, j'ai que
parce qu'il y
du
a...
Full HD. J'ai
ouais,
que
il y a
du
une
Full HD.
version Ryzen 7 et 4K, mais qui doit être proposée peut-être en Amérique ou d'autres
Ouais.
pays en Europe, mais pas en France. En tout cas, je l'ai pas vu moi de mon côté.
Tu as raison, je suis dessus, on a que du FHD. Et rien d'autre en fait de très intéressant, je trouve. Enfin, je veux pas être méchant, mais périphérique de pointage, on a le clickpad et le stylo actif. Le clickpad, ça doit être le fameux point rouge, je crois,
Ah
sur les
oui.
devices Lenovo. Franchement, je vais être franc avec vous. Moi, je suis pas un grand fan des ThinkPad hein, d'ordre général. Hein. Quand j'ai bossé en tant que consultant, on me donnait un ThinkPad qui était hyper renforcé, qui avait aucune identité, qui était tout noir et on avait l'impression que c'était un bloc et on pouvait tuer quelqu'un avec. Et j'étais à chaque fois jaloux, hein, je vais vous l'avouer, de ceux qui travaillaient en agence de communication et qui venaient nous faire une présentation avec des MacBooks dernière génération. Et à chaque fois, tous les responsables disaient, oh, vous avez de la chance, vous avez de la chance. Et en effet, je faisais partie aussi de ces personnes qui disaient, ah, vous avez de la chance. Et nous, on était avec des pauvres ThinkPad, donc ce logo, hein, je vais être franc avec vous, je l'aime pas.
Non, mais tu peux le dire, on le déteste, hein. Il est vraiment moche. Moi, j'aime pas non
Je
plus.
l'aime pas franchement. S'il pouvait juste au moins moderniser ce foutu logo et ça changerait ma vision de la marque et on va dire peut-être mon adhésion à la marque même sur le marché du Chromebook. Je sais pas si toi tu as d'autres choses peut-être à rajouter sur le sujet
Bah,
Romain.
au niveau du logo, je te rejoins complètement, je le trouve affreux, mais après, ça, on pourra pas changer le monde, mais du coup, je le trouve pas super beau. Tu vois que c'est vraiment un produit pratique, mais au niveau design, ouais, je suis pas très fan, même les petites couleurs orange près du trackpad, tout ça, je suis pas fan.
Ouais.
Après, bah, la première config, elle est énormément trop chère pour moi.
Ouais.
La deuxième, 199, elle est plus sympa, mais bon, je trouve quand même ça beaucoup trop cher. Et sinon, le fait que ça soit, je crois qu'il y a le stylet qui est fourni avec, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est
Écoute,
plutôt
ouais.
sympa.
J'ai l'impression, ouais, il dit stylo actif, même s'il n'est pas poussé en fait dans la vidéo promotionnelle. Donc là aussi, il y a un
Oh,
problème de communication. Je ne sais pas
ouais.
comment ils gèrent le business, quoi.
Et le fait qu'il y ait pas mal de connectiques aussi, c'est plutôt sympa. Tu vois que c'est un truc pour travailler, ou en tout cas si t'es prof ou des trucs comme ça. Donc il y a un peu des connectiques partout, c'est sympa. Mais après, pour moi personnellement, je suis pas très fan. Après, j'aime la marque, elle me donne rien de.
Il est à destination des entreprises. Hein. La
Ouais, bah oui, bah
dénomination le
c'est pour ça.
précise. C'est-à-dire qu'en fait, on a aussi la licence qui est directement embarquée dedans. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le chat? Dominique, c'est solide les ThinkPad pourtant. Ah oui, c'est solide. Hein.
Ah
Ça
oui,
permet,
ça oui.
je pense, de tuer des
Tu veux
gens.
quelqu'un.
Hein. C'est clairement solide. J'ai aucun problème là-dessus. Small Aigle qui nous dit trop cher ce ThinkPad.
Ouais,
Écoute,
complètement.
en effet, après, il faut l'avoir entre les mains pour pouvoir se donner un avis. Mais c'est vrai que sur de l'AMD Athlon, j'ai un peu du mal, comme Romain, à me dire qu'il faut donner un 719 euros quand on sait qu'on peut avoir en tout cas dans le monde de l'entreprise, un spin 713, celui que j'ai à côté, à des prix défiant vraiment toute concurrence, notamment celle de Lenovo. Je vais pas vous mentir.
Carrément. Après, je réponds. Il y a des personnes qui posent des questions qui ont en dehors du sujet actuel. Vous inquiétez pas, on répond à toutes les questions. On va faire un petit échange à la fin du live. Donc, si on répond pas maintenant, c'est pas qu'on l'a pas vu, c'est qu'on préfère rester dans le sujet pour éviter de s'écarter un petit peu partout. Voilà pour la petite info.
C'est ça, en fait, on conclura en fait le live, notamment pour ceux qui nous écoutent en podcast, mais on continuera à être présent pour répondre un peu au chat de manière un peu plus informelle. On va continuer avec les news hardware avec une dernière news que j'ai trouvée fort intéressante. C'est notamment eh bien, l'officialisation d'une tablette graphique One by Wacom, donc fournie par la société Wacom, comme produit qui marche, qui fonctionne avec les Chromebooks, donc qui a en fait ce badge Works with Chromebook. Donc ça, c'est assez intéressant. Enfin, moi, je connais Romain Wacom comme fournisseur, en tout cas, d'écran et de stylet. Hein. C'est ce qu'on avait en fait sur le Spin 13 que j'avais,
C'est
que
ça.
j'ai malheureusement cassé.
Aïe.
Fournisseur de ce genre de solution, et alors, ils sont très connus hein, sur les tablettes graphiques, et il n'y a pas que ce modèle-là, effectivement, dans leur gamme de produits, plutôt à destination des ordinateurs Windows ou Mac. Et là, effectivement, on a un produit qui vient se greffer au Chromebook en mode plug and play, qui fonctionne parfaitement. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Et qui peut donc faire aussi office de souris. Alors là, évidemment, l'intérêt, il est assez moindre hein, pour naviguer sur le Chromebook. Par contre, apparemment, il fonctionne très très bien avec l'application Click Studio Paint qui est proposée sur Chrome OS. Donc je ne sais pas sur le chat si, ou même toi, Romain, si vous connaissez cette application et si c'est une application, on va dire, plus ou moins professionnelle et qui a été validée par des dessinateurs, des artistes pour nous dire effectivement, bah, potentiellement, on a une vraie solution complète, tu sais, logiciel plus hardware sur Chromebook.
Alors moi, vu comment je suis très très mauvais dessinateur, je connais pas du tout, donc je l'ai jamais testé, donc je pourrais pas en dire plus. Après, sur le fait de voir Wacom investir sur le Chromebook, c'est sympa. Tu vois que le marché commence à porter, en tout cas qu'il y a d'autres personnes, d'autres entreprises qui s'y intéressent, alors que je pense qu'au début ça aurait peut-être été moins le cas. Après, tu sais que j'ai une tablette Wacom la même qu'on voit là. Je me suis jamais posé la question que si je la branchais à mon Chromebook, ça fonctionnait. Parce que souvent, même si on a le logo Work with Chromebook, ça veut pas dire que les autres produits qui l'ont pas ne fonctionneront pas. La plupart du temps, dans 99% des cas, que tu branches un truc qui soit pas officiel ou qu'il le soit, ça fonctionnera sur un Chromebook. Donc, il faudrait que je fasse le test de brancher ma tablette.
Bah
J'ai
écoute,
jamais.
avec plaisir si tu peux tester ton côté juste pour voir. En tout cas, celle-là est garantie un fonctionnement plug and play sans installation. Évidemment, de driver, ça n'existe pas sur Chromebook, mais en tout cas d'extension ou on va dire d'application externe pour faire fonctionner la tablette. En tout cas, sachez qu'elle est disponible. Il y a un petit format disponible à 39,90, à 39,90 euros et un plus gros format à 59,90. Je ne sais pas où exactement, il faudra chercher un peu sur Internet. Je ne sais pas si c'est sur Amazon ou directement sur le site. En tout cas, voilà, comme tu dis, c'est toujours un signal positif, en tout cas sur la compatibilité des accessoires avec des Chromebooks, donc pour favoriser un peu l'écosystème Chrome OS.
Carrément. Est-ce qu'il y a des dessinateurs dans le chat qui utilisent ça?
Eh ben,
Je suis en train de regarder un petit
on
peu ce
va
que ça
regarder.
raconte.
Par rapport à Wacom. Alors, on a Small Egg qui nous dit très intéressante cette nouvelle par rapport à Wacom. Entre Clip Studio qui est arrivé et d'autres apps dispo, il y a du potentiel, clairement. Clairement,
C'est vrai.
on a pas mal. Encore une fois, il y a un lien qu'il faut qu'on fasse. C'est, vous avez vu les stats, les chiffres par rapport au marché. Donc, ça, typiquement, ça devrait encourager les développeurs, les
Carrément.
éditeurs, en tout cas les sociétés, à investir de plus en plus sur Chrome OS, puisque maintenant c'est le deuxième système, en tout cas pour le moment, c'est le deuxième plus gros système d'exploitation dans le monde. Donc il faut investir sur les applications Android, ou en tout cas sur le PWA. Et il y a une chose que je voulais vous partager qui est assez intéressante, c'est que je pense que vous avez tous entendu dire que maintenant sur Windows, il est possible d'installer le Google Play Store. Je ne sais pas si c'est sur Windows 10 ou c'est en projet. Hein. Pour ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas à intervenir, à me dire exactement ce qu'il en est autour du Play Store sur Microsoft. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Google va réussir à motiver aussi les éditeurs et les développeurs à développer des formats Android qui vont être compatibles sur Windows. Et donc de profiter de ça pour pouvoir les inclure sur Chrome OS. Ça, c'est le côté sympa. Après, le côté qui n'est pas forcément sympa, c'est de se dire que bah on a Chromium avec Edge sur Windows, et en plus bientôt on va avoir le Google Play Store, donc quid de la pertinence du Chromebook ou en tout cas de la. Ah, d'un point de vue concurrentiel, c'est, je trouve que les positions sont un peu compliquées. Hein. C'est
Quand on se canne. Ah merde, j'ai pas le
cannibalisme.
mot. Voilà, exactement. Merci, heureusement que t'es là. Ça fait un peu ça.
Ouais, la cannibalisation, du coup, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce qu'on a d'autres personnes sur le
Il
chat?
y a Romain qui indique que le problème avec les Chromebooks, c'est que les vendeurs Darty, Boulanger, Watt, qui sont pas vraiment formés dessus. Ah, c'est pas faux parce que ça m'arrive souvent d'aller dans les magasins comme ça et des fois je m'amuse à écouter un petit peu les vendeurs qui, quand je vais dans le rayon Chromebook, c'est la première chose que je vais quand je vais dans un magasin comme ça. Et c'est vrai que des fois ils savent, c'est triste, hein, c'est pas de leur faute, mais ils savent pas de quoi ils parlent, donc forcément c'est compliqué de vendre un produit donc tu connais pas le principe et les fonctionnalités, quoi.
Mais il y a quand même un fort aussi là-dessus, investissement de Google. C'est-à-dire que les formateurs, en théorie, qui sont sur le terrain, c'est des gens qui ont été payés indirectement par Google. Hein. C'est-à-dire que vous avez ces personnes avec le polo, je crois, pas écrit Chrome ou Chromebook, j'en sais un, ou Google. Évidemment, ça fait partie de la stratégie de chacun des constructeurs de pousser, on va dire, la connaissance autour du produit directement en grande surface pour pouvoir conseiller les personnes. J'ai Roger B et Roland qui disent oui, Windows 10 X. Donc peut-être pour Android, hein, en projet pour Windows 10, je crois, non, c'est émulé. Et pas d'interaction entre app Android et Windows. Ok, pas de possibilité de gérer peut-être les systèmes de fichiers entre eux. J'ai le Doom qui nous dit voir la suite Adobe sur Chromebook en version cloud.
Et il y a la suite, Adobe, tu attends énormément. C'était Rush, je crois, pour le montage et on n'en a plus d'informations là-dessus.
Eh bien, écoute, j'ai eu la chance de pouvoir le tester sur le Pixelbook Go, je ne sais pas par quelle magie, parce que du coup, j'ai eu la possibilité en fait de l'installer directement dessus. Par contre, depuis, c'est le flou total, il n'y a aucune information, aucune possibilité de télécharger l'application en question. Donc, le seul moyen de la tester, c'est sur Android, malheureusement, donc sur un petit format smartphone. Mais c'était, on va dire, un peu prometteur. Après, malheureusement, j'ai pas pu aller plus loin dans les fonctionnalités, hein, ça buguait énormément, donc il n'y avait rien à faire, mais comme dit le Doom, hein, bon, enfin, en tout cas moi j'ai hâte de pouvoir avoir un équivalent de, enfin très grossier, hein, de Premiere Pro
Carrément.
sur Chromebook ou même de Photoshop. Hein. Après, je vais être franc avec vous, enfin je ne sais pas si c'est une astuce, mais en tout cas au quotidien, Laurent, pour combler ce manque au niveau de Photoshop, moi j'utilise Photopea, hein, je vais sur le site, je crois que c'est photopea.com, et c'est une
D'accord.
solution cloud qui gère les calques, qui gère pas mal de fonctionnalités, on a même et qui se rapproche des raccourcis Adobe, donc en fait on s'y Photoshop, donc on s'y perd pas tant en termes au niveau de l'utilisation. Je suis en train de lire un tout petit
Ah ouais.
peu.
En tout cas, Photopea, c'est toi qui me l'as fait découvrir et maintenant c'est devenu mon meilleur ami. Vraiment, dès que je dois faire un petit montage photo ou quoi, je lance le site Photopea et je fais ça en 2 secondes. Donc n'hésitez pas à aller dessus, parce que c'est vraiment sympa.
Bah écoute, ça fait plaisir. En tout cas, ouais, n'hésitez pas à nous dire si vous utilisez peut-être ce genre de solution. Parce qu'il y a aussi, alors c'est pas Flickr, parce que Flickr c'est pour les photos, mais il y a Pixelair qui a un équivalent encore de Photoshop et de Photopea, qui est une autre solution cloud. Moi j'ai plutôt apprécié Photopea. Donc revenons à nos moutons. Hein. Et là, on va partir plutôt sur les features de Chrome OS, donc les nouvelles fonctionnalités de notre système d'exploitation préféré. Alors attendez, on a notamment alors Phone Hub. On va parler
C'est
de
ça.
Phone Hub. Comment expliquer Phone Hub? C'est un projet, ok? C'est un projet. On en parle déjà depuis quand même quelques mois. Ça veut dire que le projet évolue très doucement sur les versions Canary et développement de Chrome OS. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, hein, qui m'ont dit en commentaire, mais quand est-ce que ça sort, etc. J'en ai vraiment aucune idée, mais c'est fort probable que ça sort. Enfin, je pense que ça pourrait sortir en version 89, donc dans la prochaine version de Chrome OS. Et le projet PhoneHub est simplement une augmentation de l'interaction que vous pouvez avoir entre votre Chromebook et votre smartphone. Ça veut dire que vous allez avoir une petite interface qui sera atteignable à partir du deck de votre Chromebook pour typiquement voir les notifications de votre téléphone, ou bien, si je dis pas de bêtises, aussi géolocaliser le téléphone. Et là, Romain, il y a une news assez intéressante, c'est qu'il semblerait qu'on sera peut-être même en capacité dans un futur un peu peut-être lointain, soit en version 89 ou ça peut-être encore une évolution de PhoneHub, la possibilité eh bien d'émuler son téléphone et donc d'avoir l'écran de son smartphone directement affiché sur le Chromebook pour pouvoir, je suppose, en tout cas interagir avec.
C'est ça, ouais. En fait, dès que tu vas recevoir une notification, par exemple, ce qui est le cas là actuellement avec PhoneHub à l'état actuel, c'est que là, tu pourras maintenant interagir avec vraiment la notification. Par exemple, cliquer dessus, je vais dire une bêtise, tu as une notification WhatsApp, tu cliques dessus, en fait, ton écran de téléphone va directement apparaître sur ton Chromebook et de pouvoir y répondre directement sans devoir prendre ton téléphone à la main ou voir qui t'a contacté. Donc, ouais, ça va émuler l'écran de ton téléphone sur l'écran de ton Chromebook. Que je sais pas quand est-ce que ça va arriver, comme tu as dit, mais je trouve ça vraiment cool et ça augmente encore plus l'écosystème et le fait de pouvoir faire plusieurs choses avec un seul appareil, en fait. Donc moi j'aime bien. Moi j'ai hâte de pouvoir tester
Et
cette.
apparemment, ce serait une fonctionnalité qui serait potentiellement exclusive au Pixel.
Ça serait normalement exclusif au Pixel, mais comme souvent, et je pense que ça sera une exclusivité temporaire, c'est que souvent quand il y a des nouveautés comme ça, Google il lance. Ils ont tendance à lancer la nouveauté sur leur téléphone propre pour tester et après le déployer sur tout le marché Android. Donc moi je pense que c'est temporaire, ça sera pas exclusif au Pixel. Ça va pas être comme par exemple bah, on retrouve Huawei qui fait ça et c'est super sympa. Je sais pas si tu as déjà vu un petit peu Huawei
Non.
avec leur solution où c'est la même chose. Ça te permet d'avoir ton téléphone Huawei directement sur un ordinateur portable Huawei et de pouvoir interagir avec ton téléphone directement avec ton PC. Donc je pense qu'on arrive sur la même optique en fait pour de la part de Google.
Après, en réfléchissant, est-ce que ce serait pas plus profitable pour Google de fournir cette exclusivité vraiment au Pixel, mais une vraie exclusivité, comme ça pousserait et ça augmenterait les ventes de Pixel, en tout cas pour ceux qui sont déjà sur Chromebook, hein, c'est tout l'intérêt.
Ouais, après moi j'ai dit toi également on est sur Pixel donc ça nous changerait rien, nous on serait contents. Moi je pense plus aux personnes qui ont pas de Pixel et c'est vrai que c'est peut-être une option qui les ferait changer d'avis et faire passer les personnes sur la gamme Pixel, je sais pas. Mais moi je pense que ça sera une exclusivité temporaire et
Bah
pas au
écoute,
long terme.
en tout cas, on verra. Je vois que sur le chat aussi, ça réagit. Alors, le Doom qui nous dit déjà il y a message, en effet, hein, sur Chromebook,
C'est
de
ça.
base, sans même parler du projet PhoneHub, vous pouvez déployer en fait la version web, hein, une version PWA de message, donc ce qui vous permet de retrouver directement vos messages mobiles sur votre Chromebook et d'y répondre. Et moi, je trouve ça super parce que quand vous êtes devant votre clavier, vous êtes en train de travailler, vous recevez vos messages, c'est hyper pratique de pouvoir le faire en temps réel et très rapidement. Je vois que Marc Rodriguez nous dit également, c'est ce que fait Huawei avec Huawei Share. Donc ça rejoint ce que tu disais, je pense,
C'est ça.
Romain, c'est bien la techno qui est utilisée. Summer Wolf qui nous dit, tout comme les mobiles Samsung sur Windows 10 actuellement. Ah, ça me dit quelque chose.
Ah, oui, je crois que Samsung permet de faire ça sur Windows.
Et oui,
Alors
il y a
j'ai.
eu un partenariat dédié, je pense que c'est ça qui en est ressorti.
C'est ça.
Et est-ce que ce serait pas aussi pour pouvoir faire tourner, j'en sais rien. Ouais, oui, en gros, tu fais tourner ton système d'exploitation mobile sur ton Chromebook, quoi. Enfin, le Android brandé Samsung sur Windows, pardon, pas Chromebook, je m'en excuse. Très bien, en tout cas, ouais, je trouve que c'est une information intéressante. Et PhoneHub, en tout cas, moi, de ce que j'en sais, et par rapport à la communauté, vous êtes beaucoup, beaucoup à attendre vraiment cette fonctionnalité. Et moi, j'ai hâte de pouvoir vraiment l'utiliser voilà, très, très rapidement. On va continuer sur les news autour. Ouais, on va parler quand même de news autour de Chrome OS, toujours, hein. Là, on est plutôt sur l'optimisation. Eh bien de la solution Google Meet spécifiquement pour Chromebook. Vous connaissez, enfin Google Meet, vous devez l'utiliser très probablement pour certains d'entre vous. Vous pouvez évidemment l'utiliser sur n'importe quelle plateforme, sur n'importe quel ordinateur, puisque c'est une solution qui est cloud et qui est acceptée via le net. Toutefois, Google a fait une vraie communication pour dire qu'il y a eu une optimisation sur Chrome OS. Donc, ce qui est bien, c'est que finalement, ça donne de l'exclusivité, hein, comme on vient de le dire par rapport au téléphone pour les pixels. Je pense que c'est une stratégie aussi à avoir pour conquérir un peu plus le marché. Et ce qu'on entend dire, c'est qu'il y aura une amélioration de la manière dont sont diffusées les vidéos Google Meet afin d'avoir en fait une vue plus large en gris, hein. Vous savez, lorsque vous êtes en train de communiquer, l'idée c'est d'afficher encore plus de gris, donc on va optimiser la vidéo de manière à pouvoir le faire. Il y aura également plus de performance et d'efficacité de la webcam et du flux vidéo sur Chromebook, en s'assurant finalement qu'il n'y a aucun traitement inutile qui est en train de tourner et qui risque de finalement de prendre de la bande passante ou en tout cas de la RAM et d'empêcher à ce que la vidéo s'exécute correctement. Et il y a aussi une dernière chose très intéressante, c'est l'adaptation dynamique de la résolution et de la fréquence d'image, hein, du flux vidéo par rapport au contexte de l'utilisateur, à savoir la puissance du Chromebook, la connexion internet de l'utilisateur, ainsi que le partage de contenu. Juste pour la petite anecdote, moi il y a 2 jours, hein, je j'avais pas la, enfin non, il y a 1 jour, j'avais déjà plus la fibre. Hein. Je ne vais pas vous mentir, j'étais en stress pour lancer ce live et j'ai eu la chance. Bah, c'est arrivé. C'est vrai que je t'avais communiqué, je t'avais dit qu'effectivement c'était un peu compliqué. Et donc là, on peut imaginer que si je retombe dans un slow débit, dans un débit un peu plus bas, bah, qu'on ait finalement malheureusement une résolution qui soit plus basse, mais en tout cas qui soit toujours présente et qu'on n'ait pas forcément la nécessité d'éteindre la webcam par rapport à la connexion, à la puissance du Chromebook ou au partage de contenu. Qu'est-ce que t'en penses, Romain, de ce choix de Google, vraiment, tu sais, de faire un focus sur les Chromebooks dans le cadre de ce genre de solution?
Bah, moi je trouve ça sympa, en plus Google Meet est de plus en plus utilisé, et c'est vrai que les Chromebooks, de préférence quand on t'achète un Chromebook, sauf nous, la plupart des gens achètent des machines qui sont très peu puissantes, et donc le fait que Google Meet va gérer en fonction de ton débit internet, mais aussi des capacités de ta machine à faire tourner plusieurs applications en même temps ou autre, moi je trouve ça bien et qu'ils investissent autant sur Google Meet, et comme on dit avec le Covid, bah les solutions de visioconférence, c'est l'avenir un peu. Non, moi je trouve que c'est une bonne chose. En tout cas, la news est une bonne chose, à voir comment ça fonctionnera au niveau en temps réel. Parce que si on s'amuse à te couper la caméra tous les 5 secondes parce que ton débit est pas suffisant, je pense que ça va pas être ouf. Donc, à voir.
C'est ça, c'est si tu as un débit trop irrégulier qui va bien et qui va pas bien, il faut trouver un peu le juste milieu. Bon, bah, c'est à Google de se démerder pour ça par rapport à leur discours. Par contre, je sais qu'il y a une dernière news que toi tu avais postée, en tout cas sur l'évolution de Google Meet, notamment dans l'enseignement, parce que là on vient de parler d'amélioration sur Chrome OS, hein, excusez-moi, de Google Meet, mais tu as effectivement une optimisation dans le cadre de l'enseignement. Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus, Romain?
Ouais, bah en fait ils ont optimisé un petit peu, bah en tout cas il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver dans les mois qui suivent. C'est surtout sur le côté enseignant, comme tu dis, de pouvoir gérer, en fait avoir une meilleure gestion de ta salle de réunion, où tu pourras, par exemple, bah, je donne des petits exemples, c'est écrit dans l'article, de pouvoir couper le micro de tous les élèves, donc pour pouvoir se faire entendre, de pouvoir gérer des réunions ou des sous, comment on appelle ça déjà, je l'avais
Alors attends,
noté.
c'est des sous, c'est des breakdowns, je crois. Enfin, en anglais, c'est breakdown, je crois. Attends, que je te dise pas de bêtises. Ce sont des sous-salles, normalement, mais c'est un autre terme.
En
Alors
gros,
attends.
ça te permet de, t'as une salle générale qui est la salle du professeur, et il peut créer des sous-salles pour des ateliers. Par exemple,
C'est ça.
le groupe A va dans cette salle-là, le groupe B, ainsi de suite. Et du coup, lui pourra gérer également la création de ces salles-là avant de lancer la réunion globale. Donc, ça va lui faire gagner du temps au lieu de le faire en direct. Tu as aussi la possibilité de tout arrêter d'un coup. Donc, toutes les personnes qui étaient présentes sur le Google Meet, qui soient dans la salle principale ou les sous-salles, je sais plus le nom, on donne pas le bon nom, mais
C'est
c'est sous-commission, je crois.
sous
Ouais, c'est
commission.
ça. Exactement. De pouvoir stopper la totalité. Donc, que n'importe qui se trouve dans la salle principale ou les sous-commissions, puis bah, soit déconnecté complètement. Donc, en fait, ils ont apporté pas mal d'outils de gestion pour les professeurs. Et je trouve ça plutôt bien, parce qu'au final, c'est sur ça que l'éducation, on est en train de se tourner, c'est vraiment sur les cours à distance, malheureusement. J'avais regardé quoi un petit peu, j'avais aussi, ils avaient mis en avant aussi l'interaction, parce que tu peux vite décrocher si t'es un élève dans des
Ouais.
cours comme ça, de pouvoir réagir, par exemple, si ton micro est coupé, de réagir avec des émoticônes ou des choses comme ça, que bien sûr le professeur peut gérer, hein, parce que sinon si tu te fais spam d'émoticônes pendant ton cours, c'est peut-être pas ouf. Mais il y a plein de petites nouveautés comme ça qui améliorent en fait vraiment le confort d'utilisation. Et après, ils ont continué aussi également sur l'amélioration, les performances sur Google Meet. Donc, tu vois vraiment que c'est un fer de lance un petit peu, je trouve, Google Meet pour Google
Ouais.
par rapport à ce logiciel-là. Ils mettent beaucoup d'efforts pour l'améliorer en continu. On garde, nous, on l'utilise également pour la petite anecdote plutôt. Donc non, après j'ai peut-être oublié des petites infos, tu peux donner d'autres compléments d'infos, mais c'est ce que j'ai retenu de cette news et j'ai trouvé ça
Bah,
sympa.
c'est ce qu'effectivement tu as un peu dit, et je pense que c'est les choses les plus intéressantes à pousser, hein. L'idée, c'est d'améliorer la sécurité, la gestion vraiment des sessions Google Meet, et ensuite plutôt, comme l'a dit Romain, l'interaction avec les élèves, hein, de manière à pouvoir interagir différemment, surtout dans des conditions de travail à distance. Alors il y a eu quelques petites Summer Wolf qui nous dit c'est pour faciliter l'adoption édu, et je crois que tu l'as dit avant, hein, qu'on parle même de cette partie éducation, mais du coup tu as fait une très bonne transition, hein. En effet, hein, c'est l'idée, c'est de capter les étudiants, hein. Ça a été finalement ce qu'a tenté de faire Teams et Zoom en s'imposant sur le marché. Bon, après, évidemment, il y a le marché de l'édu, mais de l'entreprise aussi. J'ai Marc Rodriguez qui nous dit, c'est pas ce que fait Zoom, si je me trompe pas. Bah écoutez, si vous savez, je ne pourrais pas
J'utilise
te
pas Zoom,
dire.
donc je pourrais pas dire non plus, mais je pense que la plupart des logiciels de vidéoconférence comme ça, je pense qu'ils se ressemblent beaucoup. Donc je pourrais pas dire sur Zoom. Après, il y a une info assez intéressante de Risclus, c'est qu'il dit les enseignants ne peuvent pas utiliser n'importe quel logiciel. Après, c'est vrai que je sais pas comment ça fonctionne au niveau de l'éducation, s'ils sont cantonnés à certains logiciels propres, par exemple à leur école ou autre, je sais pas du tout, mais
Bah,
c'est vrai que.
écoute, c'est vrai que c'est un peu le marché français de l'éducation, il est très compliqué, parce que bah, comme le dit Risclus, hein, c'est qu'on peut pas utiliser tout et n'importe quoi. Donc on va dire c'est plus ou moins imposé, ou en tout cas il y a des choses qui sont recommandées, et ces solutions un peu cloud d'ordre général, hein, je parle des solutions bureautiques comme Office 365 ou bien Google for Education, enfin pardon, Google Workspace for Education, donc Workspace, pardon, for Education, donc le feu G Suite. C'est pas des solutions qui sont forcément bien vues en France de par l'hébergement des données, mais il semblerait que les choses sont en train de changer un peu sur le territoire, notamment la vision sur ces solutions-là, parce qu'elles apportent quand même pas mal de choses, et elles pourraient peut-être arriver vraiment sur le marché. Et par rapport à Marc Rodriguez, hein, et pour ce qui est de Zoom, et c'est intéressant ce que dit Romain, effectivement, bah, il y a un moment, il y a trois gros acteurs, Zoom, Microsoft Teams et Google Meet. Donc il y a un moment où ça a pioché un peu à gauche, à droite, pour essayer de s'aligner, et à chaque fois tenter d'innover pour dire, hey, on est les premiers à l'avoir fait. Et concernant Zoom, ce que je voulais dire par rapport au début de notre live, Zoom, le truc qui a été intéressant, c'est que Zoom a tablé sur la communication, a eu un succès quand même qui a été retentissant. Par contre, il y a eu pas mal de problèmes liés à la sécurité, notamment sur le fait que n'importe qui pouvait rentrer dans une réunion Zoom sans autorisation. Donc en fait, il y a eu un gros coup de com' sur Zoom, ça a été super. Puis ensuite, ils ont commencé, je crois, à rétablir tous ces aspects bloquants au niveau de la sécurité. Donc, alors que Google Meet, typiquement, ça a toujours été pensé pour les entreprises. En tout cas, en général, Google, hein, produit des solutions pour eux. Donc, ça veut dire que s'ils les produisent pour eux, ils veulent être dans un environnement sécur, que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de soucis, et ensuite le livrer aux entreprises. Donc, voilà, juste pour faire un peu le distinguo, pour dire. Voilà, il y en a un qui a quand même pensé à la sécurité de base. L'autre, il a eu une autre stratégie très très orientée business, qui est louable et qui a fonctionné finalement. Mais bon, voilà. Après, chacun son point de vue sur là-dessus. Et oui, alors Roger B qui dit oui, 60 minutes bof sur Zoom. Aussi cette limitation qui est pas forcément
Ouais,
tip
c'est
top.
pas dingue ça. Je savais même pas qu'il y avait une limitation. Après, il y a un truc intéressant de Summer Wolf et qui rejoint aussi Recluse, c'est la souveraineté des données, c'est ça le gros problème, et je pense que c'est
Tout
pour
à
ça que
fait.
les enseignants peuvent pas faire n'importe quoi avec les étudiants, en tout cas aller sur n'importe quel logiciel.
C'est
Donc ouais,
ça.
c'est ça qui est embêtant.
Où sont hébergées les données? Ça, c'est toujours la grande question pour la France. Cette histoire de souveraineté de données, c'est la bonne remarque. J'avais oublié le mot, mais c'est bien ça. La collecte de données, l'hébergement des données. Google ne garantit en aucun cas aujourd'hui un hébergement des données sur le territoire français. Par contre, il y a effectivement un projet de mise en place de data center qui était initialement prévu pour début 2022. En France maintenant, est-ce que Covid va faire ralentir ce projet-là? En tout cas, ça aurait permis aux écoles ou aux entreprises de choisir, bah tiens, je veux héberger en France, je veux pas que mes données circulent sur d'autres pays. Après, il faut voir comment les données sont répliquées. Bref, parce qu'on peut avoir aussi un truc où tu répliques les données dans d'autres pays. Donc peut-être que la donnée principale de base, elle est sur le territoire. Donc il y a peut-être choses à voir. Mais en tout cas, c'est super intéressant ce que vous dites dans le chat parce que ça nous permet un peu de discuter. Et c'est assez marrant parce que du coup, on discute plus, j'ai l'impression. Et c'est super, hein, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est bien, on interagit sur ces infos. Et Roland qui nous dit, les étudiants utilisent aussi Discord. Ben
C'est vrai.
effectivement, ils sont Discord est beaucoup utilisé aussi dans le monde du gaming. Romain, tu nous confirmes?
J'utilise que ça, mais c'est vrai que niveau étudiant et même moi perso dans mon entreprise, il y a des petits groupes qui se forment sur Discord pour parler de un peu plus facilement. Donc je crois que Discord arrive un petit peu dans le milieu de l'entreprise, même si c'est pas ce qu'ils souhaitent eux, mais c'est les gens qui l'utilisent de cette manière-là.
Yes, et je pense qu'effectivement, puisque les étudiants les utilisent dans le monde du gaming, ils ont
C'est ça.
effectivement cette tendance à l'utiliser ensuite au quotidien et peut-être à le préférer dans le cadre de leurs études. Dernière news assez importante qui a fait du bruit du coup, enfin encore une fois, très bonne transition, c'est de l'improvisation pure,
En plus.
de la transition autour du gaming, puisque Stadia a annoncé effectivement qu'ils allaient fermer. Eh bien, leur studio de développement de jeux vidéo. Hein, quand on parle de développement de jeux vidéo, en l'occurrence, quand on l'ouvre, c'est pour créer des exclusivités. Hein, des exclusivités pour pouvoir se distinguer vis-à-vis des autres marques, type PlayStation ou bien Xbox. Parce que finalement, aujourd'hui, c'est ce qui fait que vous allez choisir une console ou une autre. C'est évidemment ces exclusivités qui peuvent être plus ou moins intéressantes. Hein. On pense à par exemple à Mario, qui est la grande marque côté Nintendo, c'est quelque chose que vous n'allez pas retrouver chez Xbox et chez PS4, et du coup, vous avez plutôt préféré prendre la Switch. Et là, Romain, il y a quand même cette news qui est tombée, qui a fait beaucoup de bruit, parce qu'il y en a, bah, évidemment, les médias se sont emballés, commencé à
C'est
dire, ah,
ça.
Stadia est mort. Donc, je pense que ce serait bien qu'on fasse un petit rappel de ce qui a été dit, et qu'on explique réellement, enfin, en tout cas, qu'on partage aussi ce qu'on pense, hein, parce qu'on n'a pas, on sait pas tout, et on ne sait pas dans tous les cas de quoi l'avenir sera prêt, pardon. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Romain?
Bah du coup, comme tu l'indiquais, donc c'est vraiment que les studios internes, c'est les studios Games and Entertainment, j'essaye de le faire un peu à l'anglaise. En fait, c'est vraiment que les studios propres que Stadia avait lancé l'année dernière en même temps que son service, qui ont fermé. Alors après, les raisons, je ne sais pas, je pense qu'il doit y avoir un peu de Covid, un peu de, je ne sais pas, un peu beaucoup de choses. Mais en gros, ils les ont fermés. Mais le problème de Google, comme dans la plupart des choses qu'ils font, ils savent pas communiquer. Ce qui fait que forcément, bah, comme tu dis, les médias se sont emballés, Stadia a fermé, alors que c'est pas du tout le cas, ça continue, il y a encore plein de jeux qui sortent, parce que j'y joue énormément, c'est devenu ma plateforme numéro un, Stadia, j'ai un peu délaissé toutes les autres consoles à côté. Et en fait, bah, de ce que j'ai compris, ils vont se focaliser vraiment sur la proposition du service aux éditeurs tierces. Donc au lieu de débourser de l'argent, il y avait trois studios internes qu'ils avaient créés, donc ceux-là ils vont disparaître. Et au lieu de débourser de l'argent pour la création de jeux d'exclusivité, ils vont plutôt débourser leur argent pour avoir des exclusivités soit d'éditeurs tiers ou soit d'avoir des nouvelles licences qui arriveraient sur la plateforme. Donc ils ont un peu remis leur argent sur notre voie. En soi, je trouve ça. C'est mon point de vue, je trouve ça un peu normal, c'est que forcément, tu crées des. C'est un peu le chat qui se mord la queue, c'est que tu crées des exclusivités pour faire venir des gens, et du coup, pour avoir des gens, il faut des exclusivités. En fait, c'est un truc sans fin. Ce qui fait que je pense qu'il n'y avait pas assez de joueurs sur la plateforme, donc ils ont abandonné les exclusivités pour le moment. Mais qui sait, peut-être ça arrivera, ça reviendra. Il y a beaucoup de studios comme Sony ou même Xbox qui ont fermé leurs studios internes et qui les ont ouverts par la suite ou autre. Et c'est pas pour ça que PlayStation ou Xbox a disparu. Donc sur le coup, c'était une mauvaise nouvelle. Après, tu réfléchis, tu penses un peu à comment ils réfléchissent à la stratégie. Et pour moi, c'est pas si dérangeant que ça. C'est juste la communication qui est désastreuse et ça, je comprends pas comment Google peut parler comme ça, parce que quand tu annonces une mauvaise nouvelle, derrière tu renchéris avec une bonne nouvelle pour dire non, mais voilà, il y a ça qui arrive, nanani. Rien du tout. Pendant une semaine, c'était le calme plat. Donc je comprends pas. En tout cas, c'est vraiment ça que j'ai retenu, c'est la communication désastreuse. Après, le service, il continue à tourner et moi, je suis très bien dessus personnellement. Voilà, j'ai un peu trop parlé,
Là-dessus,
je te laisse le.
non, non, pas du tout, au contraire. Enfin, tu as dit que des choses enfin, vraiment pertinentes. Le truc, c'est que. Qu'est-ce que je voulais dire exactement? Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'effectivement, ils vont plutôt miser sur l'acquisition en fait, d'exclusivité. Donc, ils vont plus les produire et donc dépenser tant d'argent pour avoir des studios de développement et avoir des ressources humaines pour travailler dessus.
C'est ça.
On est sur une boîte effectivement d'ingénieurs, donc la communication c'est pas leur fort, mais bon moi ce qui me rend fou quand même à ce niveau-là c'est quand même c'est un GAFAM et bah, par contre ils devraient avoir l'argent pour pouvoir avoir des marketeurs ou en tout cas des
Carrément.
personnes vraiment opérationnelles là-dessus. Après bon bah ça veut rien dire hein, parce que encore une fois la communication peut être dans certaines sociétés est drivée par le développement, hein. C'est-à-dire que les développeurs ont une forte mainmise sur certaines choses et enfin sur en tout cas sur les fonctionnalités et la réalisation d'un jeu vidéo. Que ça peut être certaines fois compliqué, mais effectivement, enfin, pour moi, en effet, enfin, on peut dire clairement que pour le moment, Stadia n'est pas mort. Hein. Faut, déjà, de base, le service continue. Il n'y a pas eu de message officiel pour dire qu'il est down et rentre dans le cimetière des applications Google. Donc, comme le dit Romain, il y joue et moi aussi. Alors, attendez, je vais peut-être avoir OK Google qui va s'activer, donc je préfère anticiper. Donc, ça fonctionne. La plateforme technique est vraiment opérationnelle. Maintenant, il y a aussi cette stratégie où ils vont plutôt aussi, Romain, donc proposer leur plateforme technique eh bien, aux éditeurs tiers, pour qu'ils puissent avoir leur propre offre de cloud gaming. Tu sais, je me souviens, on parlait de, je crois que c'est Uplay Plus ou Ubi Plus, il me semble, l'offre
Oui, ça a changé le nom, mais c'est ça, c'est Ubisoft Plus ou je sais
Ubisoft
plus quoi
Plus qui devait être intégrée à l'offre Stadia. De base,
maintenant.
est-ce que demain en fait Ubisoft va préférer, va se dire, bah tiens, on va plutôt prendre l'offre de service de Stadia en mode no name où on ajoutera en fait notre nom. Donc ça peut être ça. Après, on peut imaginer, en fait, il y a plein de scénarios qui peuvent être possibles. On peut imaginer qu'au sein de Stadia même, on ait plusieurs petits abonnements possibles selon les éditeurs. Donc on peut imaginer un Ubisoft, un. Je dis n'importe quoi, un Namco Bandai avec toute la série des DBZ, et là vous payez. Là vous êtes en mode peut-être Netflix où vous allez payer un abonnement par mois par éditeur pour avoir accès à tout le catalogue de jeux. Et après on peut imaginer aussi un gros Netflix où là vous avez accès au catalogue de tout. Enfin, plutôt accès à tous les catalogues de jeux des éditeurs au sein même de Stadia, Romain.
C'est un peu ce que Luna bah, de Amazon veut faire, hein, c'est de proposer plusieurs abonnements de chaque service, en tout cas Ubisoft Plus ou un truc Bethesda ou autre, et le mettre dans un ensemble. C'est ce que Amazon veut proposer. Après, je sais pas si Google partirait dans cette optique-là, à voir. Mais après, ils peuvent faire ça aussi en version, comme tu dis, marque blanche, où ils proposent leur serveur, leur système de cloud gaming, mais pas estampillé Stadia, mais vraiment pour par exemple Ubisoft ou EA ou autre. Donc ils ont pas mal de choses qu'ils pourraient faire parce qu'ils sont vachement développés au niveau du cloud gaming. Après c'est mon ressenti, c'est les plus développés, le système de cloud gaming le plus stable et le plus fiable que j'ai utilisé en tout cas de mon côté.
Bah écoute,
Je sais pas toi.
je te confirme, normalement je vais bientôt tester un peu Nvidia GeForce, mais en mode Founder, pour tester vraiment le
D'accord.
service jusqu'au bout. Donc je vous ferai, enfin je partagerai, je pense, un retour d'expérience sur Chromebook Live ou directement sur Tech Live, hein, sur la chaîne YouTube. Mais en tout cas, effectivement, je confirme ce que dit Romain. Je pense pour moi, enfin, aujourd'hui, c'est l'offre cloud gaming la plus aboutie techniquement parlant. Juste pour terminer sur cette news, on a quand même une annonce d'une centaine de jeux, si je dis pas de bêtises. Donc finalement, en fait, comme tu dis, hein, ils ont réagi peut-être une semaine un peu plus tard. Un peu, hein, une semaine après,
Peu trop
pardon,
tard.
pour peut-être un peu trop tard, mais en tout cas pour dire qu'il y aurait 100 jeux qui sortiront. Alors je pense d'ici la fin de l'année 2021, tu confirmes?
Ouais, c'est ça, il prévoit donc de sortir même plus, je crois que c'est 100 ou plus, mais d'ici la fin de l'année, et je pense qu'ils y arriveront, parce que quasi toutes les semaines, il y a des nouveaux jeux qui sortent, donc et je suis assez présent dans toute la communauté Stadia, donc je regarde un petit peu ce qui se passe, et c'est ce qui est annoncé, donc pour moi, le service n'est pas mort, en tout cas, j'ai pas eu d'informations de Google qui indiquait ça.
Et pour la petite, pour les possesseurs de Chromebook, hein, il y aura une version apparemment qui sera pré-installée sur Chrome OS. Donc lorsque vous achetez sur les nouveaux modèles de Chromebook, hein, si je ne dis pas de bêtises, vous allez
C'est
acheter
ça.
votre Chromebook et en fait vous avez une application embarquée Stadia pour pousser un peu le service, hein, faire de la pub. C'est comme ce qu'on a en fait sur à l'époque, en tout cas je me souviens sur les smartphones, quand vous les achetiez, ben, vous avez des applications. Bon, vous avez celle évidemment du constructeur, mais certaines fois vous aviez des jeux vidéo d'éditeurs qui payaient pour avoir une présence directement sur le smartphone. En question, écoute Romain, moi je crois. Alors, on a pas encore terminé, hein. Il reste
Ah,
encore
une
une
petite
petite dernière
info,
chose.
attends, je te coupe. Une petite
Oui.
info pour les gens qui veulent tester Google Stadia et qui ont des a priori ou qui veulent savoir un peu comment ça marche. Si vous avez un Chromebook, normalement, vous avez 3 mois souvent qui est offert. Tu avais fait un article, Fred, et
Tout à
souvent
fait.
c'est 1 mois ou 3 mois. En tout cas, de base, vous avez quand même 1 mois d'offert dans tous les cas dès que vous inscrivez sur Stadia, donc en allant sur Google Stadia, et vous pouvez vous inscrire avec votre compte Gmail. Vous avez 1 mois offert, mais si vous utilisez votre Chromebook, vous pouvez avoir 3 mois offert. C'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure et que depuis, j'ai pas arrêté.
Ouais,
Voilà.
bien, bien vu, en fait, vous avez effectivement un accès aux avantages, à des avantages qui sont poussés par Google lorsque vous achetez un Chromebook, et Stadia fait partie de ces offres, tout comme YouTube Music et d'autres choses, donc c'est l'occasion, c'est gratuit, vous testez. Par contre, évidemment, n'oubliez jamais, hein, petite astuce, d'annuler votre abonnement si vous pensez déjà de base que vous n'allez pas le renouveler, mais vous voulez
C'est ça.
tenter l'expérience, hein, pour pas que vous preniez encore chaque mois, en fait. Je crois que c'est 10 euros environ l'abonnement Stadia, mais YouTube Music, si vous prenez pour un foyer de 4 personnes ou 5 personnes, c'est environ 17-18 euros. Donc ça peut revenir aussi cher au mois. Dernière petite chose par rapport donc à notre live, ce que je voulais, c'est vous partager, je sais pas comment on va faire, mais en tout cas une petite astuce, hein, d'usage, enfin d'utilisation du Chromebook. Bon, je pourrais pas vous la montrer en live, ça va être un peu compliqué, mais en tout cas, il y a une astuce que moi j'adore partager et qui me fait gagner un temps max, et je crois déjà avoir fait un article sur le sujet. Lorsque vous êtes sur... Attendez que je me trompe pas. Lorsque vous êtes sur Chrome, bon là je suis sur un PC sur Windows pour pouvoir faire le live, mais lorsque vous êtes sur Chrome et que vous souhaitez basculer d'un onglet à un autre, vous pouvez le faire très simplement en utilisant le trackpad, en apposant les trois doigts sur le trackpad et en dirigeant d'un côté, celui de gauche ou droite, là où vous voulez vous diriger. Je trouve cette astuce, j'insiste, hein, c'est pas non plus une révolution, elle existe peut-être sur Mac, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, c'est le truc que j'ai pris l'habitude de faire, et lorsque je bascule sur Windows, je tente de le reproduire, mais sans succès, parce que c'est propre vraiment à Chrome OS. Et ça, bah si vous êtes sur Chromebook en train de regarder le live, n'hésitez pas à le tester du coup en direct, mais c'est clairement une astuce, moi, qui me fascine et que j'utilise en fait au quotidien. Je sais pas si toi, Romain, tu as eu l'occasion, ou si peut-être tu peux. Bah non, tu peux pas le faire en live parce que du coup t'es pas sur ton
Non, il est à côté.
434. Mais
Ouais.
en tout cas, voilà, je vous recommande fortement de tester cette astuce. On va arriver en fait à la fin de ce live. Ce que je vous propose, c'est qu'étant donné que ce live est enregistré sur YouTube, mais également en podcast, on va conclure. Okay, pour le podcast, et on va continuer effectivement avec vous un peu à interagir, à répondre un peu à vos questions, donc interagir un peu plus avec le chat. En tout cas, merci encore une fois pour votre présence. Désolé du désagrément, hein, ce sont comme on aime bien dire à la télé, c'est les aléas, c'est un peu les aléas du direct. Maintenant, je sais pourquoi j'ai un petit problème, et c'est lié à la clé de stream. On le saura pour la prochaine fois. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié eh bien, on va dire peut-être ce nouveau format où il y a un peu plus d'interaction avec le chat. Vous avez apprécié les sujets qu'on a abordés. Moi, je trouve qu'en tout cas, sur la partie marché Chromebook, c'était super pertinent de vous le présenter aujourd'hui. Donc voilà, comme vous le savez, comme je viens de l'énoncer, l'épisode sera disponible très rapidement sur le podcast, enfin sur Google Podcast, sur Apple Podcast et sur Spotify, en théorie demain. Si j'ai un peu de temps, j'essaierai de vous faire ça rapidement. Et puis, j'ai envie de vous dire à la prochaine, en tout cas pour ceux qui nous écoutent sur le podcast. Merci encore une fois, Romain, pour ta
Merci à toi.
présence pour cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.
Salut tout le monde.